بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. جزاك الله خير.
بارك الله.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir de nous réunir après la prière, la salat accomplie en congrégation. L'objectif de cette assemblée est de se rappeler les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles de la meilleure des créatures, les paroles du plus grand homme qu'Allah azza wa jalla, de la plus grande, la plus belle des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a envoyé sur cette terre comme guidé et comme lumière pour l'humanité, les humains et les djinns. Et notre prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné que par la grâce d'Allah azza wa jalla, le Coran a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah ta'ala dit inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ça veut dire que ce Coran, les paroles du Coran, les paroles d'Allah resteront intactes et inchangées jusqu'à la fin des temps. Et puis notre prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné des paroles de sagesse, nous a enseigné des leçons de vie, des leçons de foi à travers son vécu, son histoire, mais également à travers l'histoire des sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, ces personnes qui étaient les meilleurs des hommes et les meilleurs des compagnons. Jamais un prophète avant notre prophète alayhi salatu wa salam avait eu des hommes, des compagnons aussi valeureux, aussi vertueux que ces personnes. Et dans l'histoire des sahaba radiyallahu anhum ajma'in, nous avons vu qu'il y a énormément de leçons de vie, de foi à retirer. Et nous nous étions attardés avant le mois, après le mois de Ramadan, sur cette histoire de la campagne de Tabouk. Et nous présentons nos excuses sur le retard accumulé à chaque fois. Qadar Allah, Allah fait en sorte qu'il y a des fois où on a l'intention de venir et puis il y a des empêchements, ça c'est le taqdir. Mais on demande à Allah al-thabat wa al-istiqama, qu'Allah donne la possibilité, la fermeté de continuer inshallah dans cette voie pour propager la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que chaque personne qui s'assoit à l'assemblée, la personne en ressort au moins avec quelque chose. Et ce au moins quelque chose-là, c'est un trésor qui ne s'achète pas, qui n'a pas de prix. Notre prophète alayhi salatu wasalam nous a expliqué qu'il y a des anges qui sillonnent la terre. Hadith que tout le monde connaît, même les enfants ils connaissent ça à la madrasa, qu'il y a des anges qu'Allah azza wa jalla a créé, dont leur travail, leur mission, c'est de chercher des assemblées où on parle d'Allah. Et lorsqu'ils trouvent ces assemblées où on parle d'Allah, ils s'assoient, pas ils s'assoient, mais ils écoutent, ils sont attentifs et ils vont dire à Allah azza wa jalla, que dans tel endroit, tel pays, telle ville, telle localité, quel que soit l'endroit, il y a un groupe de gens qui se sont assis, qui se sont réunis uniquement pour parler de toi, uniquement pour parler de ton dîn, pour parler de ta parole et pour évoquer ta grandeur. Allah Ta'ala est tellement satisfait qu'à l'issue de l'assemblée, Allah fait la promesse que toutes les personnes qui étaient présentes ont leur péché effacé. Et dans certaines versions, le péché effacé est transformé en bonnes actions. Donc même si on n'a pas beaucoup écouté, même si au bout de 10 minutes on a somnolé, ou alors on a pensé à autre chose, ou alors on a reçu un WhatsApp très important, très crucial par rapport à je ne sais quoi et qu'on n'a pas écouté, mais celui qui était présent jusqu'à la fin, l'assemblée, le majlis, il a ses péchés pardonnés. Et ça c'est vraiment un cadeau de la part d'Allah, que les erreurs qu'on a pu cumuler de la journée, les erreurs conscients et inconscients, sont lavées par le biais de ce genre d'action, les assemblées où on vient avec sincérité. Parce que dans cette assemblée, on peut être sûr que celui qui est là, il est là par sincérité. Celui qui n'a pas envie d'écouter, il s'en va. Et celui qui, il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit pour faire voir aux gens. Non, la personne qui s'assoit, c'est qu'il a envie d'écouter. Et ça c'est magnifique ça, que quand on est sûr que dans une action il y a 100% de ikhlas, comme Allah Ta'ala dit yabluwakum ayyukum ahsan wa amala. Les ulama disent que ahsan wa amala, c'est ikhlas wa amala. Allah Ta'ala veut voir qui c'est qui fait les actions, les meilleures des actions, et les meilleures des actions, ce sont les actions qui sont les plus sincères. Donc on est profitable. Donc, avec beaucoup de paramètres, quand on s'assoit, on écoute une parole d'Allah, une parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on avait déjà fait 3 programmes, 2 ou 3 sur Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, dans l'histoire de Ghazwat Tabouk, mais on va récapituler brièvement parce que certainement au bout de pas mal de mois on a perdu un peu le fil. Notre prophète alayhi salatu wassalam annonce aux sahaba, contrairement à ses habitudes, que il lève une armée pour aller rencontrer les Romains à Tabouk. Et en commentaire, les muhadithins disent, on va s'approcher un petit peu, parce qu'avec la pluie, on n'a pas besoin de crier trop fort. Les mufassirines disent, les muhadithins disent que le prophète, lorsqu'il faisait une campagne, il ne disait jamais où est-ce qu'il allait. Parce qu'il y avait toujours des espions. Il y avait des espions, des camps ennemis, des Quraysh, des Munafiqins qui essayaient de savoir qu'est-ce que les musulmans ils font. Ils faisaient croire qu'il allait tel endroit, mais après ils changeaient de cap. Mais là, cette fois-ci, le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé clairement aux sahaba qu'on va aller où ça? À Tabouk. Et Tabouk, c'est très loin. C'est près de 800 km, 600-800 km de Madina. C'est un voyage très long. Bien sûr, il y a d'autres chameaux, vous comprenez. Et il a prévenu les sahaba parce que le voyage était long et parce qu'il y avait besoin d'une armée et des armes et tout ce qu'il faut pour équiper l'armée des musulmans. Donc il y a des sahaba qui ont fait des dons. Ça, on avait déjà expliqué l'histoire. Des sahaba qui ont donné beaucoup de biens dans le fi sabilillah pour équiper l'armée des musulmans. Alors, une particularité de la Ghazwat Tabouk, c'est qu'elle était en plein été. Vous savez que l'été en Arabie Saoudite, c'est très chaud. Mais ce n'est pas uniquement ça. L'été est également synonyme de la récolte des dattes. Et vous savez qu'il y a combien de récoltes de dattes de l'année? Une seule. Comme saison mangue, il y a une seule. Comme saison litchi, une seule. C'est par exemple une personne qui, je ne sais pas, un agriculteur, son travail c'est planter des litchi et vendre des litchi. Si au mois de... octobre? Pas novembre, décembre, janvier, il va 3 mois à Disneyland. Quand il revient février, tous ses pieds ont donné des fruits, ils ont tombé pourris, c'est un massacre, il y a des veilles, il y a des machins. Alors, comment il va vivre toute l'année? Alors que c'est ça son activité. Les sahaba, les agriculteurs, ils étaient comme ça. Ils avaient besoin de la récolte de dattes. Donc pour an-nufus, pour leur cœur, pour leur passion, leur attachement au bien de ce monde, enfin, si on peut dire leur attachement, le peu qu'ils avaient, subhanallah, leur moyen de subsistance, on va dire. Hein, ça posait problème. Et c'était un grand mujahada. C'était un grand sacrifice que de tout laisser pour aller dans le chemin d'Allah. Et un endroit qui est très loin. Et laisser madame et les enfants derrière. Avec les champs et les femmes, ils ne savaient pas comment cultiver les dattes, récolter les dattes et tout. Mais malgré ça, tous les sahaba, ils ont répondu présent. Alors donc, l'armée des musulmans, il prend son départ et arrivé à l'endroit, il n'y a pas eu de bataille. Parce que les Romains ne sont pas venus au rendez-vous. Ça, on ne va pas réexpliquer. Mais ce qui nous intéresse, c'est à un moment donné, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il regarde un peu les sahaba qui sont présents. Et à un moment donné, il demande, « Aïna Ka'b ibn Malik ?» Il cherche, « Où est Ka'b ?» Et vous savez, il y avait beaucoup de sahaba de cette armée. Pour que le prophète, alayhi salatu wassalam, cherche particulièrement Ka'b, ça prouve quelle était l'importance de Ka'b pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ka'b faisait partie des Ahl Badr, des sahaba qui ont participé à la bataille de Badr, subhanallah. Ça c'était les piliers ça. Les sahaba qui ont participé à la bataille de Badr, c'est le statut de l'islam. Il n'y a pas une personne ici qui fait salat ou qui dit la ilaha illallah sans que ces gens-là en ont des récompenses. Parce que ces 313 là, c'était la carapace, c'était l'armée, c'était le statut comme on a dit de l'islam. Si ce n'était pas eux pour rester ferme avec le prophète alayhi salatu wassalam, les sahaba après n'auraient pas embrasser l'islam. Donc c'était les meilleurs des hommes parmi les meilleurs des sahaba, c'était les meilleurs des sahaba, Ahl Badr. Donc le prophète aimait Ka'b ibn Malik. Il dit, mais où est Ka'b? Et là, il y avait des gens, il y avait une personne qui avait dit que, et a commencé à dire des choses mauvaises. Il a commencé à dire des paroles déplacées, des propos un peu accusatrices sur Ka'b ibn Malik. Et Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, qui était présent, qui faisait partie des éminents sahaba, immédiatement il a pris la défense de Ka'b ibn Malik. Ça c'est important, ça, cette leçon que Mu'adh nous donne, quand on entend quelqu'un parler à tort d'une personne, d'un frère musulman, ou accusé, parce que Ka'b ibn Malik n'est pas resté à Madina comme les hypocrites pour les mêmes raisons, pour cultiver leur champ, non. Lui, à chaque fois, il se disait que je vais bientôt rejoindre l'armée, mais à chaque fois, il disait que bon, après, j'ai le temps, j'ai une monture qui est rapide, dans quelques temps, je vais joindre l'armée. Il n'y avait pas de mauvaises intentions comme les hypocrites, d'accord? Et donc, Mu'adh, il a immédiatement pris la défense de Ka'b. Et ça, ça montre la muhabba qu'il y avait parmi les sahaba. Quand il y a un problème, immédiatement, on doit prendre la défense de notre frère. Il faut essayer, certains disent qu'il faut essayer de trouver 70 excuses pour notre frère musulman, mais ne laissez pas quelqu'un écraser ou accuser ou porter atteinte à l'honneur de notre frère musulman. Et le prophète alayhi salatu wassalam écoute une personne qui critique Ka'b et Mu'adh ibn Jabal qui prend la défense de Ka'b et le prophète alayhi salatu wassalam il reste silencieux. Et les muhadithis disent, voyez le prophète alayhi salatu wassalam, la sagesse que quand on ne connaît pas quelque chose, on ne parle pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas prononcé. Il attendait le retour à Madina et là il va convoquer Ka'b pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, on va aller un petit peu vite. Ça c'est juste un récapitulatif. Maintenant, Ka'b, radiallahu anhu, il entend qu'il n'y a pas de bataille et que l'armée des musulmans retourne. Maintenant, pour Ka'b, c'est une catastrophe. Il pensait que la campagne, c'était parti pour 15, 20 jours, 1 mois. Donc, s'il part dans 2 jours, 3 jours, il va joindre l'armée. Et là, il se rend compte que l'armée des musulmans prend son chemin de retour et revient vers Madina. Maintenant, c'est trop tard. Il ne va plus rejoindre l'armée, il n'y a plus rien à faire. Ils sont en train de rentrer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, arrive à la masjid. Et ça, c'est une chose que le prophète والسلام, avait l'habitude de faire, ça on n'avait pas souligné notre fois, que lorsqu'il revenait d'un long voyage, il n'allait pas immédiatement chez lui. Il allait à la masjid et il faisait deux rakats de salat. Il faisait deux unités de prière, ensuite il retournait chez lui. Les ulama, rahimahumullah, disent que malheureusement, ce genre de pratique est délaissé par la Ummah. Ça fait partie des sunnahs que les gens ne mettent plus en pratique. Parce que les gens ne voient plus l'intérêt. Mais pourquoi? Quel intérêt? Il n'y a plus besoin. C'est ça le gros problème. Quand on délaisse la sunnah, on perd la baraka. Tandis que dans cette action, peut-être on peut dire, mais quelle sagesse, quel intérêt. Mais dans le moindre fait et geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le mode de vie qu'Allah a choisi pour chaque être humain. Et là-dedans, il y a le falah. Là-dedans, il y a le succès. Là-dedans, il y a l'ouverture. Il y a l'apaisement des cœurs. Il y a la bénédiction. Et il y a l'agrément, le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam dans la masjid, là, waja al-mu'adhirun. Et là, les personnes viennent demander pardon, de présenter leurs excuses. Et toutes les personnes qui venaient, c'était des munafiqines, des hypocrites. Ils venaient raconter n'importe quoi, dire pour Allah, on avait des excuses. On avait vraiment des excuses valables. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, ça on avait développé la foi, il n'est pas là pour juger ce qu'il y a dans les cœurs. Il ne va pas mener une enquête, essayer de voir où. Le prophète n'avait pas de pouvoir non plus de savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Aucun être humain n'a le pouvoir de lire ce qu'il y a dans les cœurs. Moi, j'étais voir une fois une personne, parler quelque chose, il m'a dit que, ah, toi, tu as telle chose dans ton cœur. Quelques temps après, je vais le voir, dire, ah, là, ça a changé, c'est pas comme. Et au nom de quoi? Subhanallah, notre prophète, alayhi salatu wassalam, reçoit des hypocrites qui viennent dire qu'on avait telle excuse, on n'a pas pu venir. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, ne se prononce pas. Et notre prophète n'a pas eu l'ordre de la part d'Allah de juger les gens dans leur partie de leur intérieur. Ils l'ont dit, le prophète les fait confiance. Maintenant, c'est entre eux et Allah. S'ils ont menti, Allah Ta'ala va régler leur compte, mais d'une manière spéciale, parce qu'ils ont menti à qui? Au prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam. Maintenant, Ka'b, radiyallahu anhu, hein, on a oublié de dire que Ka'b n'était pas seul. Il y avait trois sahaba, il y avait Ka'b, il y avait Murara ibn al-Rabi' et Hilal ibn Umayya. Trois éminents sahaba qui, pour à peu près les mêmes raisons, ne se sont pas rendus à la bataille de Tabouk, mais c'était pas comme les munafiqines, comme les hypocrites. Et donc, là, il y a des gens qui viennent voir Ka'b. Et il dit, la famille de Ka'b dit, oh Ka'b, si tu vas dire la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être fâché avec toi. Il y aura des conséquences, il va prendre des mesures contre toi parce que c'était un péché très grave. C'est une grave erreur ce que tu as fait. Donc regarde toutes ces personnes qui sont venues, ils ont dit au prophète d'Allah, on avait des excuses, voilà, le prophète les a pardonnés et c'est fini. Fais comme eux, tu vas t'en sortir. Et Ka'b radiallahu anhu, il dit que, lorsqu'il arrive, il dit que j'entre dans la masjid et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me regarde avec un sourire tabassum al-ghadab. Le prophète sallam, pardon, il regarde Ka'b et il sourit, mais un sourire de quelqu'un qui est fâché. Ajib ça. Le prophète sallam avait des manières également qui étaient exceptionnelles. Il souriait, mais le sahaba il voyait que c'était un sourire de quelqu'un qui n'était pas content. Et là les ulama disent également, le prophète sallam l'a appelé. Il a dit, ma khalafaka. Il a dit, oh Ka'b, ta'al. D'abord, il a dit, ta'al. Les ulama disent qu'on a besoin de parler avec une personne, on ne parle pas de loin. On a besoin de demander quelque chose. On n'a pas vu, on a besoin de quoi avec lui. Viens, ta'al. Viens t'asseoir, parler. Parce que là, les cœurs sont proches, il est plus facile de dialoguer. Et puis, parfois, c'est une conversation qui ne concerne pas les autres. Si on va dire des choses, les gens écoutent, ils entendent, ils comprennent tout ce que vous faites, c'est quoi votre vie. Le prophète l'appelle. Les ulama disent que c'est pas grand chose, hein, mais les ulama disent, al-kalamu min qurbi. Quand quelqu'un vous parle de près, ça a plus d'impact que quelqu'un qui s'adresse à vous de loin. Ça touche plus les cœurs, le message passe immédiatement. Petite parenthèse. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Ka'b, ma khalafaka, pourquoi tu n'es pas venu? Et les ulama disent, regardez, le prophète sait que Ka'b est coupable. Le prophète sait que Ka'b a fait une erreur. Le prophète sait également quelle est la qualité, quelle est la valeur du iman de Ka'b, c'est pas un menteur. Mais dit, mais le prophète ne l'a pas humilié. Le prophète n'a pas dit, oh mutakhallif, oh toi qui n'es pas venu avec nous, oh toi qui aimais telle chose, oh toi qui te joins. Le prophète n'a pas humilié le sahab. Le prophète n'humiliait jamais quelqu'un en public. Même si quelqu'un a tort, même si quelqu'un a fait une chose qui n'est pas bien, le prophète faisait en sorte que les péchés d'une personne restent cachés. Il n'humiliait jamais quelqu'un devant les gens. Même, subhanallah, Il y a des fois où le prophète a été touché de sa propre personne. Quand il y avait des gens qui ont accusé na'oudh billah Aïcha radiallahu anha de choses horribles, le prophète savait qui étaient ces gens. Le prophète a dit ma bal aqwa min yaquluna hakadha wa hakadha. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui osent dire telle chose? Mais le prophète ne nommait jamais les gens, ne donnait pas les noms, il ne voulait jamais rabaisser une personne. Et là, il écoute Ka'b et Ka'b il dit au prophète d'Allah, inni lam atakhallaf li'udhr. Je n'ai aucune excuse pour mon absence. Et il dit également, sa citation est assez longue, il y a avant les campagnes de Tabouk, c'est-à-dire Badr ou Uhud, il n'y a jamais une campagne où j'avais autant de biens, où je pouvais amener facilement deux montures avec moi. C'est-à-dire que j'avais l'argent, j'avais le temps, j'avais tout ce qu'il faut, je n'avais aucune raison. Il dit au prophète d'Allah, je te dis la vérité, ça c'est magnifique. لو أني جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أتخلص منه لأن الله قد أعطاني جدلا. Oh prophète d'Allah, si j'étais présent face à un roi ou un souverain, un empereur. Il veut dire quoi? Un être humain normal, subhanallah. Il parle d'un roi, d'un souverain, un empereur, mais il veut faire comprendre que c'est rien pour, par rapport au prophète d'Allah. Un être humain normal, pas l'élu d'Allah. Et si c'était avec ces gens-là, j'aurais pu les berner, j'aurais pu le faire croire ce que je veux. Parce qu'Allah m'a accordé al-jadal. Allah m'a accordé une certaine éloquence dans le discours qui fait que quand je parle, les gens sont captivés, ils me croient. Et j'aurais pu facilement changer de sujet et parler d'une chose que la personne en face serait convaincue et donc faire passer ce mensonge facilement. Mais au prophète d'Allah, walakinni la uhaddithuka al-yawm hadithan tardi bihi anni fayushiku an yuskhita Allah alayya fi dhalik. Le prophète d'Allah, jamais je ne pourrai te dire une parole qui va te satisfaire, mais que après Allah Ta'ala sera mécontent de moi. Et les ulama disent, regardez le iman de Ka'b ibn Malik. Il aurait pu s'en sortir. Il avait des qualités pour s'en sortir. Il pouvait faire. Il pouvait tirer, raconter une histoire. Mais il a cette conviction que le contentement d'Allah, c'est par le contentement du prophète. Et s'il trompe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un être humain, il ne pourra pas tromper Allah Azza wa Jal. Il a la conviction que s'il trompe le prophète sallallahu alayhi wa sallam par un mensonge, mais quand il va rencontrer Allah, Allah, qu'est-ce qu'il va faire de lui? Et ça résume la foi du musulman. Dans le dunya, on peut tromper tout le monde. On peut faire croire qu'on est bien, qu'on est mashallah, on est pieux, on est religieux, on est tout. On peut donner une fausse image de nous. Mais on ne trompera jamais Allah. Et quand quelqu'un fait un péché, il ne doit pas se dire, mais est-ce que quelqu'un m'a vu? Est-ce que Fundi m'a vu? Est-ce que Molissa m'a vu? Est-ce que papa, maman, de nos jours, papa, maman, est-ce que ça compte dans un péché? Ça ne fait plus rien, ça. Et est-ce que les jeunes se disent qu'ils sont en boîte? Attention, quand papa va dire, mais c'est en boîte, dit papa, d'autre tranquille, garde son football et puis il lève demain tranquille, il sort à la mosquée. Moi, mais c'est en boîte, je suis jeune. Les jeunes, Wallah Moustan, peu de gens, ils se font encore du souci du regard de leurs parents. Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? Bref. Et donc, qu'est-ce qu'on disait donc? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, que le musulman, face au péché, ce qui l'importe, c'est pas le regard des gens. Ce qui l'importe, c'est comment Allah va l'accepter. Et qu'Allah, il connaît ce qu'il y a dans les cœurs. C'est le seul qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Et si j'ai mal agi, Allah Ta'ala va me punir. Allah Ta'ala sera mécontent de moi. Et donc, il a dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amma hadha faqad sadaq » a dit lui, il a dit la vérité, il est véridique. Et ça rejoint le chapitre « As-sidr » que le musulman dit toujours la vérité, que ce qui sort de sa bouche doit être conforme à ce qu'il y a dans son cœur. Et les ulama disent que déjà, ça c'est une qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité de Ka'b, que c'est quelqu'un de véridique. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que « Fadhab hatta yaqdi allahu fika ma sha'a » Maintenant, pas et Allah Ta'ala va prendre la décision. Et les ulama disent, regardez le prophète sallam, il ne prend pas de décision de par lui-même. Il dit qu'on attend qu'est-ce qu'Allah va décider pour toi. Il attend quoi? Il attend la révélation. Il attend le wahi. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va décider pour les gens qui ne se sont pas joints à l'armée des musulmans? Et donc, lorsqu'il retourne auprès de sa famille, il y a plein de remords, il y a plein de tristesse de son cœur. Et là, la famille revient une deuxième fois. Il dit que non, tu n'aurais pas dû dire ça. Retourne auprès de lui, dit que non, tout compte fait, la vraie raison c'est telle chose. Une deuxième fois, ses proches, certaines personnes de sa famille, ils ont essayé de les dissuader. Et le ulama dit qu'à un moment donné, Ka'b il dit, et une parole magnifique, il dit, « Fa'inna Ka'ban lamma hamma an yuzawira ala rasul sallallahu alayhi wa sallam » جل الله ذلك عن قلبه وأزاله عن قلبه. Ka'b, au moment où il avait peut-être songé réellement, peut-être à dire quelque chose qui va contenter le prophète sallam, Allah Ta'ala guide son cœur immédiatement. Allah Ta'ala fait en sorte que cette mauvaise intention, même si c'était une fraction de seconde, quitte son cœur et que c'est la vérité qui sort de sa bouche. Et les ulama disent que lorsqu'Allah Ta'ala aime quelqu'un, Allah Ta'ala protège la personne. Et quand on dit protéger, c'est pas protéger uniquement contre les malheurs. Allah Ta'ala le protège contre les péchés. Et ça, c'est important, ça. Quand on arrive à un degré de iman, de bonnes actions, de ibada, qui fait que Allah Ta'ala nous aime, Allah Ta'ala nous protège, Allah Ta'ala protège notre iman. Allah Ta'ala fera en sorte que nous ne nous mettrons pas dans une situation où on va faire des péchés, on va encourir la colère d'Allah. Comme aller peut-être faire cette erreur. Mais Allah Ta'ala a enlevé cette mauvaise intention de son cœur et Allah Ta'ala l'a recadré et Allah Ta'ala a mis la lumière de son cœur qui fait que Ka'ab a dit là la vérité. Quand Allah aime quelqu'un, Allah fait en sorte que cette personne reste sur le droit chemin, que cette personne ne soit pas tentée par les péchés. Il faut demander à Allah de nous accorder cette qualité, qu'Allah nous choisit toujours pour faire des bonnes actions et qu'Allah nous protège notre iman contre les tentations de Shaytan et les erreurs et les péchés. Amin. Donc Ka'ab est resté ferme sur sa décision. Et donc, le prophète alayhi salatu wa salam, quelque temps après, a dit aux sahabas d'aller annoncer à Ka'ab que Allah t'a ordonné à ce que la communauté ne t'adresse plus la parole. On devait isoler Ka'ab radiallahu anhu. Il pouvait fréquenter les gens, mais l'ordre d'Allah était que personne ne lui adresse plus la parole jusqu'à ce qu'Allah ta'ala décide de lui pardonner. Et personne n'avait le droit non plus de lui faire salam. Et lorsque lui, il faisait salam à quelqu'un, les gens n'avaient pas le droit de répondre le salam. Alors que nous savons, afshus salam abaynakum, que le prophète m'a enseigné que pour entrer au paradis, parmi les secrets, c'est faire le salam à tout le monde. Mais là, c'était l'ordre d'Allah azzawajal d'isoler la personne qui a fait ce péché. Et les ulama disent que le fait d'isoler le pécheur, parfois, c'est quelque chose qui lui permet de se rendre compte de la gravité de son péché. Par exemple, dans la masjid, dans la jamaat, on connaît qu'il y a une personne qui a l'habitude de boire de l'alcool. Comme ça, hein, c'est fictif, ça. Hein. Supposé que tout le monde connaît. Et c'est quelqu'un qui boit devant nous. C'est quelqu'un qui ne se cache pas pour boire. Il ne se cache pas de son péché. Il boit devant tout le monde sans crainte d'Allah et sans honte des gens non plus. Donc, une des solutions, c'est que la jamaat se mette d'accord pour que personne n'adresse plus la parole à cette personne. Ça, c'est qiyas, c'est par analogie à cette méthode prophétique. Les ulama disent que c'est quelque chose qui est applicable. Bon, maintenant, il faut un certain niveau de pratique, hein, bien sûr. Il dit que la personne qui va se rendre compte que plus personne ne lui adresse le salam, elle va réaliser que c'est par rapport à mon péché que personne ne veut plus me fréquenter. Et donc, il va comprendre que c'est vraiment quelque chose d'ignoble, qui est inacceptable quand on est mu'mine, quand on est musulman, et donc automatiquement la personne va abandonner le péché. Bien sûr, ça marche quand on est entre nous avec des musulmans et tout, mais c'est une méthode prophétique et c'est quelque chose qu'Allah Ta'ala a révélé. Et donc c'était ce qui devait être appliqué pour Ka'ab, Murara et le troisième sahaba. Mais Ka'ab radiallahu anhu a été très courageux. Malgré ça il venait à la masjid et il faisait salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis il observait est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bougé ses lèvres pour lui répondre le salam. Regardez comment les sahaba étaient attachés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, c'était une catastrophe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mécontent de lui. Et à un moment donné, Ka'ab, il voit comment la situation évolue. Pendant 40 jours, personne n'avait le droit de lui faire salam. Et pour eux, pour ces trois sahaba, c'était une catastrophe. On avait expliqué la dernière fois, c'était comme la fin du monde. Et pourquoi la fin du monde? Alors qu'ils étaient en bonne santé, ils avaient leurs biens, ils pouvaient manger, boire, ils avaient leur famille, ils avaient tout. Mais le fait de savoir qu'Allah et son prophète étaient mécontents d'eux, pour eux, c'était la pire des choses. Le fait de savoir qu'ils ont fait un péché et que, à cause de ça, Allah et son prophète sont mécontents d'eux, c'était la pire des choses. Les sahaba ne pouvaient pas imaginer vivre une seconde alors qu'Allah Ta'ala n'est pas satisfait. Ils pensent que s'ils meurent de cette situation et qu'Allah n'est pas content d'eux, qu'est-ce qui va arriver? Regardez leur fikar à eux et regardez notre fikar à nous. Regardez leurs préoccupations et notre préoccupation. Si demain la protège, quelqu'un travaille, le patron dit que bon, à la fin du mois, je ne renouvelle plus ton contrat. C'est une catastrophe. La personne ne mange plus, elle ne dort plus, c'est la fin du monde. Ou alors, Si au bout d'un mois, je ne sais pas, la personne avait emprunté de l'argent avec quelqu'un pour acheter une voiture, c'était d'accord, la personne dit, tu confies, je ne te prête plus de l'argent. Il avait déjà préparé ses plans. Bref, quelles que soient les raisons mondaines, c'est une catastrophe. Pour nous, on est cassé moralement. Mais là, ça, pour les sahaba, ce n'était pas une question matérielle. C'était le contentement d'Allah et son prophète. Ils étaient privés de ça et pour eux, c'était la pire des choses. Parce que c'était des gens qui vivaient pour Allah. Le but, c'était que chaque seconde de leur vie, Allah est content d'eux. Et quand ils meurent, Allah soit content d'eux et les accepte pour leur faire entrer au... C'est ça la vie du mu'min, qu'Allah soit content de nous jusqu'à la mort et qu'Allah nous fasse accéder au paradis. Maintenant qu'on est blanc, noir, jaune, bleu, vert, riche, pauvre, riche, millionnaire ou au SMIC ou RMI, c'est pas ça le problème. Le plus important, c'est qu'Allah soit satisfait du musulman. Et donc là, Ka'b il raconte qu'une fois en sortant de la masjid, là Ka'b était vraiment la pire des situations, hein, il était à la limite de craquer. Il venait encore à la masjid, mais c'était à la limite pour lui. Il dit qu'une fois je vais près de la maison de mon cousin. Mon cousin qui s'appelait, si je ne me trompe pas, on retrouve son nom. Hey, on va revoir, Inch'Allah. Il va à la maison de son cousin et qui était quelqu'un qu'il aimait bien. Et là, il lui adresse le salam. Et même son cousin n'a pas voulu lui répondre son salam, alors que c'était la personne la plus proche de lui. Il a dit que, est-ce que tu attestes que j'aime Allah et mon prophète? Une fois. Il ne répond pas deux fois, il ne répond pas trois fois. Et son cousin lui a dit que Allah et son prophète seulement le sait. Et le ulama dit qu'il n'a pas parlé, il n'a pas répondu. Il a dit une phrase sans s'adresser à quelqu'un. Allah wa rasoulou a'lam. Et là, c'était vraiment... on peut dire que Ka'b a touché le fond, pardonnez-moi l'expression, là il n'en pouvait plus. L'épreuve a atteint son summum, il ne pouvait plus supporter cette situation. Tandis que les deux autres compagnons, on ne parle pas d'eux, vous savez pourquoi? Parce que eux, ils ne sortaient plus de chez eux. Ils restaient chez eux, ils pleuraient du matin jusqu'au soir. Ils faisaient leur prière chez eux, ils ne sortaient plus. Et à un moment donné, Ka'b radiallahu anhu était tellement désespéré que lui aussi il est resté chez lui parce que c'était devenu un cauchemar que de voir le professeur sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ne pas répondre à son salam. Et ils ont compris vraiment quelle était la gravité de la zéro et comment Allah azza wa jal était mécontent de hada. Et regardez, là Allah ta'ala m'a envoyé une épreuve. Quand le mu'min parfois il est à la limite de craquer, regardez quelle épreuve Allah ta'ala a envoyé. Il y a un étranger qui rentre dans Madina. C'est pas un arabe. Un étranger qui rentre et qui demande à une personne, montre-moi où est la maison de Ka'b ibn Malik. Et Ka'b dit, c'est moi Ka'b ibn Malik. Il dit que moi j'appartiens au royaume du roi Ghassan. Ghassan n'était pas un musulman, c'était un kafir. D'accord? Et Ghassan t'envoie ce parchemin. Et Ka'b faisait partie des rares personnes qui savaient lire. Et sur ce parchemin, c'était écrit que cette lettre vient du roi Ghassan de telle région et que on a entendu que ton compagnon, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'a isolé et que ses compagnons également ne t'adressent plus la parole. Je te conseille de ne pas rester dans un endroit où tu es humilié et je t'envoie l'invitation, viens vers mon royaume et je vais t'honorer, tu vas voir comment je vais être généreux envers toi. Ka'b, lorsqu'il a entendu ça, il était stupéfait. Il a compris que ça c'est un piège de shaitan. Que regardez, là il voit que les musulmans l'ont. Si Ka'b n'avait pas un degré de iman solide, shaitan aurait dit que regarde tes compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ils t'ont abandonné. Là il y a quelqu'un qui n'est pas mu'min, mais il a des qualités, il est généreux, il t'appelle, va vers lui. Lui c'est quelqu'un qui a des qualités. Ka'b a compris que ça c'est vraiment la dernière des épreuves. Et là, il a pris ce parchemin immédiatement, il l'a jeté dans le feu et il s'est dit que jamais je ne vais quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Et le ulama dit également, on ne va pas faire trop long après, 27 minutes, encore 3 minutes. Le ulama dit également que regardez, à toutes les époques, les kuffars ont essayé d'induire en erreur les musulmans. Même à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent, il y a des kuffars, des gens qui n'ont pas la foi, qui espionnent ceux qui ont la foi, qui espionnent les musulmans et qui essaient de trouver leur faiblesse pour les faire chuter par leur faiblesse, qui essaient de piéger par leur faiblesse. À toutes les époques, il y a eu, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de nos jours, Allah musta'an. Allah musta'an, comment il y a des gens qui surveillent comment on fonctionne, quelles sont nos faiblesses et qui essaient de jouer sur nos divergences pour faire chuter la communauté. Regardez le fitna, les troubles qu'il y a dans la communauté avec les divergences d'opinion. Quand on parle d'un savant, ça c'est hors sujet, quand on parle d'un grand cheikh, d'un savant, à des gens disent, ah non, lui non, il n'est pas bon parce que tel cheikh de tel pays a dit que lui il n'est pas bon. Mais quand on parle du alim inverse, ah non, lui de l'autre côté, il a dit que lui il n'est pas bon. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a tellement de iftiraq Il y a tellement de divergences d'opinion. Il y a tellement de divisions. Et ça, c'est un travail de Shaitan qui sème la division dans les cœurs. Et ça, cette division-là, elle est préparée par les koufars. Elle est préparée par les gens qui veulent détruire le dîne. Et ils savent que quand les musulmans sont unis, ils ont toujours eu victoire lorsqu'ils étaient unis. Mais à partir du moment où il n'y a plus l'union, il n'y a plus l'aide d'Allah avec eux. Et de nos jours, il y a des gens qui disent que oui, les savants de tel côté sont bons. Après là, on commence à tirer plein de choses. D'un côté, il y a les salafis. D'un côté, il y a les tabliris. D'un côté, il y a les wahhabis. D'un côté, il y a les déobendis. D'un côté, il y a les ci, il y a les ça, il y a les ça. Le but, c'est quoi? C'est pas sincère, cette divergence. C'est pas la recherche de la vérité. Non, malheureusement, tout ça, c'est coordonné par les ennemis de l'islam qui veulent qu'un musulman ne peut plus regarder son prochain sans dire que lui, il est comme ça, lui, il a tel défaut, lui, il fait n'importe quoi, lui, il est dans l'erreur, dans la perdition. Mais, chers frères, il faut arrêter avec ça. Il faut faire en sorte de revenir avec les valeurs essentielles. Bien sûr, si quelqu'un fait des pratiques qui sortent du cadre de la parole d'Allah et de la parole du Prophète sallam, du mode de vie du Prophète sallam, de la sunna des khulafa al-rashidin, des sahaba et des savants des trois grands siècles d'Ashab al-Qurun al-Mufaddala jusqu'à les trois siècles après le Prophète, oui, là on va expliquer qu'attention, ça c'est une bid'ah, c'est pas bon. Mais malheureusement, de nos jours, c'est rare quand on fait un discours que tout le monde est d'accord. Dit que si on a cité un nom, il y a la moitié qui n'est pas content. Si on cite l'autre nom, c'est l'autre moitié qui n'est pas. Wallah musta'an. Ça, c'est des divergences qui font que les musulmans ne se supportent plus entre eux. Alors qu'on a un livre, c'est le Coran. On a une sunna qui est protégée, alhamdoulilah, chose que les autres communautés n'avaient pas eue. À nous de rechercher l'union et la muhabba entre nous. Petite parenthèse. Voilà. Donc là, il a refusé l'invitation de ce roi. Et donc, regardez comment l'épreuve, c'est la dernière étape, puis on va continuer la prochaine fois, Inch'Allah. Regardez comment l'épreuve va devenir encore plus dure. Ça va atteindre le summum, et ensuite Allah va envoyer l'ouverture. À la 40e nuit, c'est pas au 40e jour, le hadith dit que, فَلَمَّا تَمَّتْ لَنَا أَرْبَعُونَ لَيْلًا 40e nuit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à sahaba d'aller dire à ses trois sahaba que notre prophète alayhi wa sallam vous ordonne de vous séparer de vos femmes. C'est encore plus dur. Le prophète ordonne à ses sahaba de prendre des distances avec leurs femmes. Et quand immédiatement il pose la question aux sahaba, est-ce que je donne talaq, est-ce que je donne le divorce à ma femme? Et les ulama disent qu'il était tellement ferme. Pour lui, on lui avait dit que le prophète a dit de donner talaq, il l'aurait donné immédiatement. Il y a même dans sa situation, pour eux, suivre l'ordre du prophète, c'est la priorité. Est-ce que le prophète a dit que je lui donne le talaq? Le sahaba a dit non. Le prophète n'a pas dit talaq, a juste dit prends des distances, sépare toi de ta femme sans préciser le talaq, donc ne donne pas. Immédiatement, il a pris des distances avec sa femme. À l'exception d'une personne, un des trois sahabas qui s'appelle Hilal, son épouse, il dit que oui, Hilal a besoin d'assistance, il n'y a personne pour être à son khidma. Et là, le prophète m'a dit que bon, je t'autorise à titre exceptionnel d'être au service de ton mari, mais pas de rapport intime, ne l'approche pas. Et là, sa femme dit au prophète d'Allah, innahu laysa lahu shahwatun fi nisa. Elle dit qu'il ne pense même plus à ça, il ne pense même plus à avoir des rapports avec sa femme, il passe son temps à pleurer du matin jusqu'au soir. Il pense plus au plaisir de ce monde, il se lève le matin, il pleure, il dort le soir, il pleure. C'est pas quelqu'un qui a perdu ses enfants, hein. C'est pas quelqu'un qui a perdu tout son argent, c'est quelqu'un qui sait qu'Allah et son prophète sont en colère avec lui. Regardez l'imam des sahaba. Et donc, on continue. Et au bout du 50e jour, Ka'b dit que je venais de terminer ma salat al-fajj sur le toit de ma maison. Parce qu'il a, à cette période-là, hein, il n'allait pas à la masjid. Il a dit, je terminais la salat al-fajj sur le toit de ma maison lorsque j'ai entendu Ya Ka'b ibn Malik Abshir. Oh Ka'b, Abshir, ça veut dire je t'annonce la bonne nouvelle. Et là Ka'b a compris que fa'alimtu anna Allah qad anzala fiyya faraji. J'ai compris immédiatement qu'Allah Ta'ala a envoyé l'ouverture, qu'Allah Ta'ala a envoyé une révélation pour moi. Et plusieurs sahaba, ils sont venus, il y en a d'autres qui sont venus en cheval, hein, un cavalier qui est venu dire fort qu'Allah Ta'ala vous accorde son pardon. Et le prophète m'a envoyé plusieurs sahaba annoncer aux trois compagnons que Allah Azza wa Jal a révélé un verset dans lequel Allah Ta'ala dit qu'il a pardonné à ces trois sahaba. Il dit que c'était comme un jour de fête pour eux. Il dit que c'était comme un jour de fête. Il dit que quand la personne est venue m'annoncer ça, c'était la coutume des Arabes que lorsque quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, vous lui donnez un cadeau. Ce que vous avez sur vous, vous lui donnez immédiatement. Pendant que je ne me trompe pas, il y avait une femme qui avait reçu une demande en mariage pour Assa Salam. Elle avait des bijoux, elle a donné immédiatement ses bijoux à la dame qui venait lui apporter la bonne nouvelle. C'est une tradition chez les Arabes. Et Ajib, regardez ça. Il dit فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبِ الْإِزَارِ وَالْرِدَى وَلَيْسَ يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا. J'ai donné tout ce que j'avais. C'est-à-dire mon izar. Le izar, comment on appelle ça? Un pagne. Les Indiens disent ça longi. Les tissus qu'on met autour, à la place du pantalon, et le vêtement qui venait sur lui. Il dit que j'avais rien d'autre. C'est-à-dire, Kaab était pauvre. Regardez la pauvreté de ces gens. Je lui ai donné tout ce que je possédais. Il n'avait rien d'autre. Il a donné ce qu'il avait à ce moment-là. Et il a dû emprunter des vêtements avec un voisin. Et là, il va à la masjid. Il dit que lorsqu'il est arrivé à la masjid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà annoncé la bonne nouvelle à tous les musulmans qu'Allah ta'ala a accordé son pardon à Kaab. Il dit qu'il y avait beaucoup de sahaba qui venaient le féliciter. Les ulama disent que regardez, quand il y a une bonne nouvelle pour un musulman, tout le monde doit être content. Regardez la pureté de cœur de ces gens. Alors que c'est, regardez la récompense, comment elle est sublime. Kaab radiallahu anhu ainsi que les trois sahaba, ils ont vécu des moments durs, 50 jours de souffrance, mais à la fin, Allah ta'ala les a pardonnés. Et Allah Ta'ala a révélé un verset qu'il est cite dans le Coran, qui sera lu jusqu'à la fin des temps. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ. Jusqu'à la fin du verset, jusqu'à la fin des temps, les gens vont lire l'histoire de Kaab et des deux compagnons, comment Allah Ta'ala a honoré ces gens. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a félicité, et c'était comme si c'était le plus beau joie de sa vie. Et qu'est-ce qu'il a gagné là? Est-ce qu'on lui a annoncé que tu as gagné le million? Est-ce qu'on lui a annoncé que tu as un grand-père qui est décédé de tel pays que tu ne connaissais pas et tu as hérité d'une fortune immense? Non! Ils ne viennent pas gagner d'un million comme si quelqu'un nous annonce que voilà, quelqu'un t'a légué en héritage 2 millions d'euros. Oh, on est heureux, on ne sait plus quoi faire, on pleure, on crie, on ne sait plus quoi faire. Non! Il a eu la bonne nouvelle qu'Allah Ta'ala t'a pardonné. Et pour lui, c'est joie de Eid. Comme pour eux, c'est un désastre de savoir qu'Allah est mécontent d'eux. Quand ils savent qu'Allah les a acceptés de nouveau, Allah Ta'ala leur a accordé le pardon, pour eux, c'est le plus beau joie de leur vie. Ça, c'était le iman des sahaba. Donc là, on a résumé l'histoire jusqu'à la fin. Et donc, Allah Ta'ala leur a accordé le pardon. Et le prophète Ali salatu wassalam a repris Kaab et les deux sahaba. Et ils ont réintégré la communauté. La prochaine fois, on va voir quelles sont les grandes lignes, quelques leçons encore tirées de cette histoire. Mais ce qu'on aimerait retenir, c'est regarder l'attachement que les sahaba avaient pour Allah et son prophète. Pour eux, ça représentait tout. Et regardez comment, pour eux, un péché qui n'a pas été pardonné par Allah, c'est quelque chose de grave. Pour eux, vivre avec un péché, c'est impossible. Alors que nous, Allah musta'an, combien de péchés nous cumulons matin et soir? Combien de fois nous faisons des erreurs avec rafla, avec insouciance? C'est comme si que on ne va jamais mourir. C'est comme si que jamais on va rencontrer Allah. C'est-à-dire que ça, c'est des choses de base du mu'min, al-iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa al-yawmin akhir. Nous, il nous manque iman billah, vraiment, il nous manque le véritable iman billah, sachant quelle est la grandeur de notre Rabb, de notre Seigneur. Iman bil yawmin akhir également, il nous manque. Parce que c'est comme si que quand on voit un musulman dans les erreurs, dans les péchés, il fait plein de choses, c'est comme si qu'il était éternel. Ou alors c'est comme si qu'il n'aura jamais de compte à rendre à quiconque. C'est-à-dire que sa foi est incomplète. Il n'a pas réalisé qu'il y a l'étape de la mort. Il y a l'étape où Malik al-Maud, l'ange de la mort, reprend l'âme. Il y a l'étape où on est sous la tombe, on a les questions qu'on doit répondre par rapport à nos actions, que nos péchés soient avec nous, nos bonnes actions soient avec nous. Il y a l'étape où on est ressuscité. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont ressuscités, ils sont immédiatement appelés sous l'ombre du trône d'Allah. Ce sont les meilleurs des hommes de toute l'humanité. Il y a des gens qui sont ressuscités avec Qaroun, Fir'aoun, Haman, qu'Allah nous protège. Il y a des gens qui sont auprès d'Abu Bakr al-Siddiq, de Umar ibn al-Khattab, de Uthman, de Ali radiallahu anhum, et d'autres qui sont auprès des grands kuffars de la Ummah. À nous de choisir avec qui nous voulons être ressuscités. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith que Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Et le hadith Man tashabbaha biqawmin fahuwa ma'ahum. Celui qui imite un peuple sera avec eux. Maintenant, si moi, dans mon mode de vie, je vais vivre comme ceux qui n'ont pas la foi, je vais suivre leur mode, je vais aimer leur musique, je vais faire tout comme eux, je consomme comme eux, est-ce qu'on entretient l'espoir d'être ressuscité? Au nom de quoi serions-nous ressuscités? Sous l'ombre du trône d'Allah ou auprès des illustres compagnons? Nous serions une tâche impure auprès d'eux. Regardez, il y a deux points, on termine, aucun rapport avec le Riyad Salihin. Il y a deux choses. Demain, c'est la Saint-Valentin, oui ou non? C'est demain? Sûr? Vous en venez acheter pour futur? Rien. Il n'y a pas de futur ou alors pas acheter rien pour lui? n'a point. Papa, quoi, t'es où? T'es stressé, voilà. Il y a ça, on fait beaucoup, là, on stresse, là. Alors, demain, c'est la Saint-Valentin. Wallah, Moustah, c'est une fête qui n'a, une fête païenne, une fête qui n'a aucun rapport avec notre dîn. Et le musulman, pour lui, c'est la Saint-Valentin, il va acheter un bouquet de fleurs, ma chérie, pour toi et tout. Et il croit que ça renforce Mohabba. Est-ce que ça fait partie du mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si ça fait partie du mode de vie, faites-le. Si ça ne fait pas partie du mode de vie, choisissez quel chemin vous voulez suivre. Il y a d'autres qui disent que non, mais ça c'est pas grave, ça c'est pas grand chose, ça c'est un petit cadeau. Mon frère, petit cadeau, fait toute l'année. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit un plat de nourriture. Il est chez une de ses épouses qui est possessive et jalouse. Connais l'histoire. L'épouse prend le plat, elle jette par terre, ça casse, manger fane partout à terre. Le prophète ne dit pas un mot, ne l'insulte pas, ne la gifle pas, ne dit rien. Le prophète, il baisse, il ramasse la nourriture, il ramasse les débris et il présente ses excuses à l'épouse qui a envoyé le plat et il donne un plat en remplacement. Il ne fera aucune remarque à sa femme. C'est pas ça la Saint-Valentin tous les jours? Ça, c'est la Saint-Valentin du premier jour jusqu'au dernier jour de l'année. Le véritable Mohabba, le prophète sallam. Lorsque Aïcha, il est avec Aïcha, il prend une bouchée de nourriture, il met dans la bouche de sa femme. Ça, c'est Mohabba. Ça, c'est l'amour sincère. Pour nous, l'amour, c'est quoi? C'est aimer une femme qui est jolie. Si elle est jolie, je l'aime. Mais quand elle sera vilaine, je ne vais plus l'aimer, je vais la plaquer. Ou alors, moi, je suis beau, ou j'ai de l'argent, j'ai la carte American Express ou la carte Gold elle-même. Quand la carte devient un Visa ou alors que la carte devient carte Bois Vantage, elle ne m'aimera plus. Et quand mon figure va venir plein bouton, sera vieux, elle ne m'aimera plus. Ça, c'est la réalité de l'amour à la sauce occidentale. C'est contemplation de la beauté ou alors amour par intérêt. Même chez les Arabes, ils disent ça. Fi foulous fi hub. Ma fi foulous ma fi hub. On a l'argent, on a l'amour. On n'a pas l'argent, dégage. C'est comme ça. Wallah musta'an. Ça, c'est hub dunya. Tandis que al-mawadda wa ja'ala baynakum mawaddatan wa. Il n'y a plus de rahma de nos joies dans les couples. Un erreur dégage fou le camp. Mes chers frères, combien de cas de divorce nous entendons de la communauté? Et avant, je me disais que, mashallah, la communauté comorienne, vous êtes un peu plus protégés. Parce que, alhamdoulilah, vous avez vos traditions. Mais vos traditions, vous les avez bradées aussi. Permettez-moi de vous le dire clairement. Dites-moi, vos enfants, ils parlent arabe? Les frères des îles Comores, vous êtes arabes? Vos enfants parlent arabe? Pourquoi ils ne parlent pas arabe? Ça c'est aïb ça, c'est perdre la langue du Coran. Et ceux à qui Allah a donné cette science, qu'il réunit les enfants, qu'il les apprend. Parce que nous malheureusement on ne peut pas le faire, il y a tellement de choses et on n'en a pas fait une. Nous, alhamdoulilah, Moufia, on fait depuis 2 ans, 3 ans à fond, alhamdoulilah. D'accord? Ça c'est important. Deuxième chose, c'était bien, on n'entendait pas souvent dans la communauté comment il y a des cas de divorce, mais maintenant... Hier, après-midi, je vois une élève qui vient, elle est mahoraise, elle n'est pas comorienne. Je lui dis, où est ton papa? Il fait longtemps, il n'est plus dans le quartier. Il a dit, non, il est la même, il travaille à tel endroit. Je lui dis, il est à tel endroit. Il a dit, mais pourquoi ton frère ne vient pas à la masjid, il ne vient pas à la madrasa depuis 1 an? Elle dit que non, il faut papa lui parler, mais papa ne vit plus à la maison. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il est divorcé. Allahu Akbar. 1 mois et demi avant, un parent d'élève vient me voir, il me dit que voilà, j'ai tel problème. Divorcé, ma femme m'a renvoyé du domicile. C'est lui qui paye le loyer. Hein? Elle dit, je vis. Ça fait pas rien, c'est une catastrophe, c'est grave, parce que ça c'est des gens que j'aimais, ça. J'aime, c'est des parents d'élèves, ils me voient tous les jours, fait salam, et je vois la tristesse sur son visage, je vois la masjid un jour, deux jours, je vois tout le temps il est là, c'est pas de ses habitudes, puis il me dit voilà je suis à la rue, il y a eu problème à la maison, ma femme a dit sors, j'ai dit ton fils, j'ai dit mon fils avec madame je peux plus le voir. Et le nombre de cas comme ça, ça veut dire que nous perdons les valeurs que notre prophète alayhi salatu wasallam nous a enseignées dans le mariage. L'amour, oui, mais également la rahma, la pitié, la compassion qu'il y a pour les époux et les épouses. Ça, c'est la solution à tous les problèmes de couple. Ça me dit qu'il ne faut jamais qu'un homme déteste sa femme par rapport à un défaut. Parce que peut-être qu'elle a un défaut, mais elle a avec ça 1000 qualités. Le prophète n'a pas dit 1000. Mais peut-être qu'il y a un défaut qui te déplaît, mais elle a beaucoup de qualités. C'est-à-dire que ne pas regarder uniquement ce qui nous déplaît chez notre femme. Maintenant, arrive à la maison, Allah me pardonne, peut-être moi aussi j'ai fait cette erreur quand je suis fatigué, hein, quand la tête fait mal, c'est autre chose. Allah me pardonne. Arrive à la maison, manger pas prêt, rien, elle n'est pas prête. Ah, mais c'est pas possible, quoi, elle a fait toute la journée, mais attends, mais on est où là, tout ça. Subhanallah, elle, toute la maison est en ordre, les enfants, on les occupe tous les jours. Il y a un roulement, un jour il y a eu une erreur, un jour il y a eu un manquement pour une raison valable ou pas valable. Mais l'être humain, il est aveuglé, il voit que le problème et il voit pas tous les ni'amats qu'il y a autour. Une fois, il y avait une personne, on avait raconté ça à Montreuil, on finit avec ça. Une personne qui va voir Omar ibn Khattab, pour se plaindre, oh madame, il est comme ci, comme ça, c'est un dangereux, il est fatigant, moi, mais on peut plus. Omar ibn Khattab n'est pas encore arrivé. Hein? Et, il fait dire à la personne, assieds-toi, j'arrive dans un instant. Le Mouniaton, il entend la femme de Omar ibn crier, crier, vociférer avec Omar. Et il n'entend pas la voix de Omar. Alors que Omar, c'est pas un rigolo, hein? Omar ibn Khattab, c'est la moitié de l'islam. Shaitan, il voit, Omar, il dégage. Il traverse chemin. Omar ibn Khattab, à l'époque, il est calife. C'est-à-dire, il est l'empereur des musulmans. Et quand on dit calife, on ne comprend pas. Mais c'était le roi des musulmans. Il gouvernait sur, subhanallah, sur combien de régions, combien de millions de personnes étaient sous sa responsabilité. Son madame, il dit, rentre et clé. Omar ne répond pas. Là, cette personne s'est levée, elle est partie. Et Omar a demandé, dit, où est la personne? Il dit, ramenez-moi cet homme. Et on ramène la personne, dit, Omar dit, tu m'as attendu, pourquoi tu es parti? Il dit, Omar, j'étais venu me plaindre à propos de ma femme qui agit mal avec moi. Mais quand j'ai entendu la tienne, comment elle crie avec toi et que toi tu es le roi des musulmans et que tu ne réponds pas, je me suis dit que moi je suis incomparable avec toi. Je ne vis pas ce que tu vis, je ne vis rien en comparaison à ce que toi tu vis et quelle est ta position, tu ne réponds pas. Donc j'ai compris que je dois faire preuve de patience, ce n'est pas grand chose. Maman a dit, oh mon ami, comment est-ce que quel ingrat je serais si je n'étais pas patient avec cette femme alors que c'est elle qui s'occupe de mes enfants. C'est elle qui prépare à manger, c'est elle qui lave les vêtements, c'est elle qui assume toutes les tâches de la maison. Moi, je n'ai rien à faire. Comment est-ce que je serai ingrat si je ne suis pas capable de supporter quelques traits de mauvais caractère ou des paroles déplacées? Elle a dit que le mari se doit d'être patient. Ça, c'est notre civilisation. Et je vous jure qu'elle vaut beaucoup plus que certaines civilisations. Je vous jure que celui qui dit que notre civilisation, c'est une civilisation d'arriérés ou d'hommes préhistoriques ou des gens qui n'ont pas de valeur, regardez, ne regardez pas les musulmans en 2012, 2011, hein, regardez pas les musulmans des différents quartiers, même de France, même de la Réunion, mais non, ça c'est pas l'islam. Regardez comment le prophète sallam vivait, regardez comment les sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, vivaient. Quand on parle de liberté, la première chose, Abu Bakr embrasse l'islam, le prophète sallam, Abu Bakr achète Bilal et accorde lui la liberté, affranchit Bilal. On a attendu quand nous pour l'abolition de l'esclavage 1789 1848. Le prophète sallam, on parle d'égalité, le prophète sallam nous enseigne que par rapport à Allah que l'arabe n'a pas plus de valeur pour Allah que le noir arabe, ni le noir sur le blanc, il l'habille. Mais taqwa, uniquement ce qu'il y a de le cœur. Le prophète Ali salatu wassalam, lors de la conquête de Mecca, il amène Bilal radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal, monte sur la Kaaba et donne le adhan. Le premier adhan, c'est pas la conquête de Mecca, excuse-moi, je crois que c'est le umrah que le prophète est parti faire. Le premier adhan de l'histoire de Mecca, cette histoire je le répète tout le temps, mais pour qu'on comprenne bien ça, le premier adhan de l'histoire de Mecca tul Mukarrama a été donné par un noir descendant d'esclaves. C'est pas un arabe, c'est pas un Quraysh, c'est pas un notable, c'est pas un proche du prophète, non. Quelqu'un qui est descendant d'esclaves, un Éthiopien qui était esclave, qui a été affranchi il y a quelque temps, le prophète lui donne cet honneur qu'il n'a pas donné à un membre de sa famille. Il dit, monte sur la Kaaba, donne le premier adhan de l'histoire de l'islam. Comment jugez-vous notre civilisation en termes d'égalité, en termes de liberté, en termes de fraternité, subhanallah. La zakat, l'objectif, c'est que chaque mu'min tire un quarantième de sa richesse et qu'il donne aux pauvres de sa localité. Pour qu'il n'y ait plus trop de différence entre pauvres et riches. Le jour de Eid, un musulman ne peut pas festoyer tant qu'il n'a pas donné sadaqatul fitr, le zakatul fitr, pour que la personne qui n'a pas les moyens, lui aussi il vit un jour de fête. Allez chercher une religion, une civilisation où il y a autant de vertus de hadith sur la sadaqa, autant de vertus sur l'aumône, autant de vertus sur le fait d'affranchir un esclave, autant de vertus sur le fait d'entretenir de bonnes relations avec la famille. Et cherchez-moi une civilisation qui vous dit que le paradis se trouve sous les pieds de la maman. Dans certaines civilisations, la maman, elle est où? Elle est à l'hospice. Arrivé à un certain âge, lorsqu'ils sont à la retraite, ces personnes n'ont plus d'utilité, ne servent plus rien à la société. Papa, maman, 80 ans, dégage. Tu ne sers à rien. Et ils sont dépendants, et ils font parfois ils ne peuvent pas se contrôler, ils ont besoin de quelqu'un pour changer leurs vêtements et tout. J'ai pas le temps moi. Oh, j'ai bac plus 7, j'ai bac plus 8, moi je suis un fonctionnaire, moi je roule dans les gros lotos, je suis occupé, j'ai des gros lotos pour conduire, d'accord. Moi ma femme elle est trop jolie, Je ne peux pas garder ma maman chez elle. Ma femme, elle est trop belle. Elle veut mettre ses pas enfin. Ça, c'est la valeur véhiculée par les Occidentaux. Donc, maison de retraite, va mourir tranquille. Il y a des gens là-bas qui sont comme toi, qui ne servent plus à rien, comme toi. Donc, vous allez vous entendre parce que vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez plus votre mot à dire. D'accord? Et papa, maman meurt. Je lui ai dit, ouais, monsieur un tel, ben, je venais vite, votre papa est décédé. Il me dit, oh, papa est mort, va faire un enterrement, 15 000 euros. Et il dit, bon, et l'héritage, le noter, et puis gagne. Alors que nous, nous me dit que le paradis se trouve sous les pieds de la maman. Là, il y a trop le jannata, aaaak. Celui qui a désobéi à ses parents ne peut pas. Là, il est trop, n'entre pas au paradis. Même si c'est un moutaki, même s'il a la barbe de 2 mètres, même s'il a le turban de subhanallah, j'ai dit Ben Laden, excusez-moi. Parce que pour les non-musulmans, le musulman, c'est Ben Laden, avec la grande barbe et le turban. Même quelqu'un qui a toutes ses apparences extérieures, hein, qui ne veulent pas dire grand-chose, si l'intérieur est sale, d'accord, et qui est l'homme le plus pieux, il jeûne toute la matinée, il fait la prière de la nuit tous les soirs, mais ses parents ne sont pas contents. Lui, sa maman a quelque chose à lui reprocher, ou ça va pas loin, ou là, mon frère, hein, car il est au feu, et le feu de Jahannam, la personne ne peut, et le ulama dit que comment la personne n'en peut pas dire, l'Atala lui accordera sous al-khatima, l'Atala lui accordera une mauvaise mort qui amène les gens vers le chemin de l'enfer. Ça, c'est notre din. Mais malheureusement, si nous observons comment les musulmans vivent à notre époque, c'est vrai. On arrive à un constat d'échec que, Allah musta'an, les gens peuvent se dire que c'est une civilisation d'arriérés. Lorsqu'on voit les hommes qui, pour le moins de choix, ils passent des baffes à leurs femmes, ils tapent leurs femmes parce que, pour des trucs minimes, alors que le Prophète sallam ne l'a, le Prophète sallam n'a jamais frappé sa femme. Le prophète, je répète, le prophète n'a jamais levé la main sur sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, j'allais dire engueulé, le prophète n'a jamais fait des reproches à quelqu'un qui était à son service. Anas, il dit que 10 ans j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne m'a jamais fait de reproches pour quelque chose que j'ai fait. Pourquoi pas fait? Pourquoi non? Pourquoi tu as fait ça? Il ne m'a jamais dit pour quelque chose que j'avais pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait? Il n'y a jamais une reproche. Ça, c'était le comportement exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre dîme, notre civilisation, lorsqu'il y avait encore les esclaves, jusqu'à ce qu'il y a les hadiths étaient tellement nombreux que les musulmans les affranchissaient. Le prophète a dit que quand quelqu'un, il dit que l'esclave, c'est un de vos frères qu'Allah a mis sous votre responsabilité. Donc, quand vous avez quelqu'un sous votre responsabilité, habillez-le de vos habits. Est-ce que le patron, il passe à où son pied à cardin ou son... Combien de grand-mère aujourd'hui, c'est quoi? La cause, c'est fini, les anecdotes. Est-ce que votre patron, il vous dit que, bon, écoutez, monsieur, il faut vous habiller avec les mêmes vêtements? N'importe quoi. Le prophète me dit que ça, c'est esclave. Hein. Il a dit que habillez-le de la même façon que vous habillez avec vos vêtements. Et lorsque votre serviteur vous a fait cuire à manger, il doit manger à table. Ça, c'est hadith, c'est pas moi qui dis. Il mange à table. Et s'il a trop de gêne, donnez-lui sa portion de manger, il mangera dans son coin. Mais ça n'existe pas que quelqu'un fait cuire manger pour, il dit va-t'en, ça, c'est pour moi, ma femme, mes enfants. Ça, c'était les huquq. Ça, c'était les droits que le prophète a accordé à l'esclave. Et le prophète a interdit à un musulman de donner à un esclave une tâche que lui-même n'aurait pas pu le faire. Vous voyez le nombre de droits qui étaient accordés à ces gens, jusqu'à ce que les hadiths étaient tellement nombreux que les musulmans, ils ont accordé la libération. Umar ibn al-Khattab était contre l'esclavage à son époque également. Regardez quelles sont les valeurs que notre prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseignées, et soyons fiers de notre dîme. Mais également, donnons une bonne image de notre dîme. Là, je m'adresse aux jeunes. Très souvent, en métropole, c'est vrai que j'ai été en France, j'ai vu la délinquance, malheureusement, très souvent, c'est chez nos frères musulmans. Mais faites en sorte que nous, à La Réunion, il ne faut pas que, je vous le dis avec beaucoup de franchise, beaucoup de mohabba, il ne faut pas que les gens ils disent, et ça on entend, que c'est Ben Maouri, il fait problème, ou Ben Comorien, il ne faut pas, mes chers frères. Parce que nous représentons le dîme. Quand quelqu'un vous regarde, avant de voir, il ne sait pas si vous êtes maoré ou comorien ou malgache, avant de voir ça, il voit quoi lui? Il voit un musulman. Et quand on agit mal, il ne dit pas que c'est Mohamed ou Abdallah. Non, c'est un musulman. Ça, c'est les Arabes. Ça, c'est les musulmans. C'est ça votre religion, c'est ça qu'on vous a appris. Comprenons bien qu'on nous observe, parce que dans un sens, on met beaucoup en avant les comportements du musulman. Mais quand on ne le met pas en pratique, Là, les gens ne manquent pas l'occasion de pointer du doigt le dîn. Donc, nous sommes tous des représentants de notre dîn, faisant en sorte de vivre cette religion et de faire en sorte que les gens aiment ce dîn. Pour qu'Allah leur accorde la guidée. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Si quelqu'un a déjà acheté son bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin ou la boîte de chocolat, les chocolats je prends, ça y a pas de souci, les fleurs j'aime pas. Mais non, sérieusement, ne donnez pas demain. N'imitez pas les habitudes des autres populations. Allez, mettez les chocolats au frigidaire et donnez 2 jours après. D'accord? Au moins, on ne jette pas, c'est pas un gaspillage, mais on n'a pas fait comme les autres personnes.